Agradezco a la embajadora Mazali.
Je vous remercie, Excellence, de votre intervention. Je constate qu'il y a eu un certain nombre d'avancées ces dernières années. Vous avez en outre évoqué les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que pays. Aujourd'hui, afin de lancer ce dialogue, je vais tout d'abord intervenir en tant que rapporteur. Malencontreusement, le deuxième rapporteur, M. Tousmoukhamedov, ne pourra pas nous accompagner dans le cadre de ce dialogue. Néanmoins, notre collègue M. Erdogan İşkan lira ses questions à sa place et formulera les commentaires qu'il considérera adéquats. Dans le cadre des observations finales relatives au troisième rapport périodique qui a fait l'objet d'un examen par notre comité en novembre 2015, nous avions insisté sur un certain nombre de priorités, notamment en ce qui concerne les garanties juridiques fondamentales, le recours à la détention administrative dans le cadre de la loi sur la prévention des crimes de 1954, l'existence de tribunaux spéciaux, ainsi que la nécessité que lorsqu'il y a une affaire qui fait intervenir des suspicions d'actes de torture et de mauvais traitements commis par les forces de l'ordre soient transférées aux tribunaux ordinaires. Et enfin, nous avions évoqué également l'irrecevabilité des preuves ou des aveux obtenus sous la coercition. Nous verrons qu'un certain nombre de ces recommandations restent dans une grande mesure valables. La torture est érigée en infraction pénale au titre de l'article 208 du Code pénal. Cela étant dit, la définition mentionnée dans ce texte n'est pas tout à fait conforme aux articles 1 et 4 de notre convention. Cet article, c'est vrai, a fait l'objet de trois amendements en 2007, 2014 et 2018. Cela étant dit, le crime de torture continue d'être un délit mineur et les peines envisagées ne sont pas toujours à l'aune de la gravité des actes de torture. Il faut ajouter en outre qu'il y a une prescription ainsi que des amnisties qui interviennent parfois. D'autre part, en 2019, vous avez adopté la loi générale d'amnistie numéro 5 qui comprend notamment l'article 208 qui contrevient à la non-prescription étant donné que ce n'est pas conforme aux dispositions de notre convention. Il semblerait que certaines personnes aient pu bénéficier de cette loi alors qu'ils avaient été traduits devant les tribunaux de police. En 2018, c'est ce qui est dit dans le rapport, vous avez modifié le code pénal afin d'alourdir les peines minimales prévues dans le cadre du délit de la torture entre 1 an et 3 ans plutôt que 3 mois et 3 ans. Cela étant dit, nous sommes préoccupés par le fait que ces peines s'avèrent insuffisantes au vu de la gravité de ce délit qui exige des sanctions plus strictes. Le comité avait d'ores et déjà recommandé par le passé que les actes de torture soient considérés comme graves ou comme autant de délits criminels plutôt que comme un délit mineur. Nous avions dans ce cadre recommandé d'augmenter la peine maximale de 3 ans conformément à l'article 4 de notre convention. D'autre part, dans le rapport, vous indiquez que l'article 208 reprend en son deuxième paragraphe une définition de la torture issue de l'article 1 de notre convention. Conformément au troisième paragraphe, si la torture entraîne une lésion, la peine de travail forcé sera infligée pour un temps déterminé à l'auteur de ces actes. Dans ce dernier cas, la torture est passible d'une peine de 3 à 20 ans, conformément à l'article 20.2 du Code pénal, C'est par conséquent considéré dans ce cadre comme un délit grave. Le paragraphe 3 de l'article prévoit des peines alourdies lorsque des actes constitutifs de délits de torture sont commis par les agents des forces de l'ordre, mais précise qu'aucune circonstance atténuante ne peut être acceptée dans ces cas. Il s'agit là, il faut le reconnaître, d'un pas en avant, mais la législation ne garantit pas pour autant explicitement la nature indérogeable du crime de la torture. La définition de torture, qui figure dans l'article que j'ai mentionné précédemment, alourdit les peines prévues pour le délit de torture à l'encontre des fonctionnaires publics ou des personnes exerçant des charges publiques qui seraient les instigateurs conscients ou qui auraient toléré la commission d'un acte de torture. Il est important par ailleurs de préciser que dans votre huitième paragraphe, dans le huitième paragraphe du rapport, vous précisez que les amendements qui ont été introduits dans le code pénal ne comprenaient pas de dispositions prévoyant expressément que les actes de torture ne soient pas couverts par l'amnistie ou la prescription. Cela étant dit, l'application des dispositions de la loi d'amnistie générale par rapport au délit de torture est également associée à la volonté de la victime d'exercer ou pas une action civile. Dans le cadre de l'examen périodique universel qui s'est tenu en janvier de 2024, une recommandation avait été formulée à l'égard de la Jordanie. Il s'agissait, je vous le rappelle, d'amender le code pénal afin d'en aligner les dispositions et la définition de la torture sur celle de la Convention. Il s'agissait en outre d'ériger en infraction pénale le délit de torture conformément à l'article 1 de la Convention afin qu'elle soit assortie ou qu'elle entraîne une peine adéquate. Nous aimerions savoir s'il y a eu des avancées législatives en ce qui concerne ce thème. D'autre part, dans le rapport, il est dit que les fonctionnaires de la police judiciaire ne bénéficient d'aucun type d'immunité qui empêche de lancer des actions au pénal contre eux s'ils sont accusés d'avoir commis un délit, y compris dans les cas de torture et de mauvais traitement. L'ordre donné par un supérieur ne supprime pas la responsabilité pénale et la législation par ailleurs interdit que l'on invoque un ordre reçu d'un supérieur afin de justifier un acte